Chapitre 10. L'inspecteur Barker, dont le crâne chauve brillait comme un sou neuf sous les rayons du soleil du matin, surveillait une policière en uniforme qui enfonçait un bâtonnet en plastique dans la bouche de Carla. La femme lui gratta l'intérieur de la joue avant de retirer son instrument et de le déposer dans un sachet transparent. Quand tout fut fini, Barker acquiesça, satisfait, et demanda à sa collègue de l'attendre dans la voiture garée dehors. La péniche sur laquelle vivait Daniel était une location, avait déjà expliqué l'inspecteur à Carla. Le ménage n'y était pour ainsi dire jamais fait, si bien qu'on avait trouvé des traces d'au moins une dizaine d'individus différents, et probablement bien plus. La police s'affairait donc à prélever l'ADN et à prendre les empreintes de toutes les personnes concernées de près ou de loin par l'affaire, afin d'éliminer autant de suspects que possible. Assise à la table de sa salle à manger, Carla s'essuya la bouche avec un mouchoir et remua les épaules pour se débarrasser d'une tension en haut du dos. « Eh bien, il y a de grandes chances que vous trouviez mon ADN là-bas, » dit-elle. Barker leva les sourcils et croisa les bras. « J'ai menti quand je vous ai dit que j'ignorais que Daniel vivait sur ce bateau, » poursuivit Carla, « et que je ne l'avais pas revu. » Barker ne fit aucun commentaire. Il se contenta de traverser la pièce pour s'asseoir en face de Carla et entrelaça les doigts de ses deux mains. « Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas ? Si vous êtes là, c'est que quelqu'un vous a dit quelque chose. Est-ce qu'on m'a aperçu là-bas ? » Barker ne répondit pas. Toujours ce vieux truc pour vous faire parler, pour vous forcer à rompre le silence. Un tel cliché que c'en était insupportable, mais Carla était trop épuisée pour résister. Elle n'avait pas réussi à dormir plus de 2 heures d'affilée depuis la dernière visite de la police, 5 jours plus tôt. Elle n'arrêtait pas de voir des choses, des ombres dans les recoins, des points noirs qui s'agitaient en périphérie de son champ de vision. Ce matin-là, alors qu'elle passait devant un miroir, elle avait sursauté. Le visage de sa sœur la regardait, émacié, terrorisé. Quand Daniel est venu récupérer ses affaires, il m'a dit qu'il avait loué une péniche et m'a proposé de passer le voir. Il m'a aussi prévenu de ne pas m'attendre à grand-chose. J'y suis allée 2 fois. Ne me demandez pas quand exactement, parce qu'en toute honnêteté, je serais incapable de vous le dire. Elle hésita, puis poursuivit. Je vous ai menti parce que je ne voulais pas admettre devant Théo que je l'avais revu. Barker se laissa doucement aller contre le dossier de sa chaise. Et pourquoi cela ? Demanda-t-il en faisant craquer ses doigts, un bruit affreux. Carla ferma les yeux un instant, écouta le bruit de sa propre respiration. « Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à mon fils ?»«
Oui, je suis au courant, » répondit-il, l'air grave. « J'en avais entendu parler par la presse. Un drame terrible. »
Carla hocha brièvement la tête.
« Oui, je ne sais pas si les journaux l'ont mentionné, » mais c'était ma sœur qui s'occupait de lui quand ça s'est produit. Ou plutôt, qui était censée s'occuper de lui. Théo ne le lui a jamais pardonné. Après la mort de notre fils, il ne l'a plus revue. Il refusait qu'elle fasse partie de notre vie. De la sienne, en tout cas, et à l'époque, c'était aussi la mienne. Vous comprenez ? J'allais donc voir ma sœur et Daniel en secret. Bien sûr, Théo s'en doutait, ce qui donnait lieu à des disputes. Quand j'ai divorcé et que j'ai emménagé ici, ça m'a semblé moins important, mais j'ai quand même continué à garder le silence. Voilà l'explication, j'imagine. Cela fait si longtemps que je mens à Théo à ce sujet que parfois, j'oublie quand c'est nécessaire et quand ça ne l'est pas. Je ne voulais pas qu'il sache que j'avais rendu visite à Daniel sur ce bateau.
L'inspecteur fit une grimace dubitative. « Vous avez donc choisi de mentir à la police dans le cadre d'une enquête pour meurtre parce que vous ne vouliez pas que votre ex-mari apprenne que vous aviez vu votre neveu ?» Il ouvrit les paumes vers le ciel, les doigts écartés.
« Ça me paraît tout bonnement extraordinaire, ça me paraît... »
commença-t-il avant de lever les sourcils, suspicieux.
« Est-ce que vous avez peur de votre ex-mari, Madame Meyerson ?»«
Non, »
s'empressa de répondre Carla.
Non, mais je ne voulais pas lui faire de peine. Je n'aime pas faire de peine à Théo, et s'il avait appris que j'avais revu Daniel, cela l'aurait blessé.
Monsieur Meyerson est-il d'un caractère colérique ?
Carla secoua la tête.
Non, insista-t-elle, exaspérée. Ce n'est pas ça.
Qu'est-ce que c'est alors ? Demanda Barker.
Il avait l'air sincère, comme s'il voulait vraiment comprendre, comme s'il se tenait devant un spécimen étrange, une curiosité.
Est-ce que M. Meyerson craignait que vous cherchiez à remplacer votre enfant par votre neveu ? Est-ce que c'est pour ça que votre relation avec Daniel lui faisait de la peine ?
Encore une fois, Carla secoua la tête, mais ne dit rien. Elle se détourna du policier et regarda par la fenêtre son triste jardin pavé, avec son abri cadenassé et ses plantes en peau mortes, noircies. L'abri était vide, à l'exception d'un petit tricycle rouge au poignet encore décoré de pampis bleus. C'était le cadeau d'anniversaire de Ben pour ses 3 ans. Ils l'avaient fêté en famille, dans leur maison de Noel Road, avec les parents de Théo, Angela et Daniel, et le frère aîné de Théo, sa femme et leurs enfants. Après le gâteau et les bougies, ils étaient tous allés se promener sur le chemin de halage. Carla en aurait éclaté de bonheur, de voir ainsi Ben juché sur son vélo, ses petites jambes s'agitant à toute allure pour pédaler aussi vite que possible. Et la fierté sur le visage de Théo.
Tu as vu comme il est doué.
C'est un tricycle, Théo, avait répliqué Angela, une cigarette à la main. N'importe qui peut y arriver. Sur le chemin du retour, dans le crépuscule, parmi des passants de moins en moins nombreux, Daniel poussait Ben pour l'aider.
Attention, Daniel, pas trop vite, avait prévenu la mère de Théo.
Mais les deux enfants l'avaient complètement ignoré et, tout excités, s'étaient précipités dans le virage en manquant de s'étaler par terre. Après la mort de Ben, après l'enterrement, quand les proches endeuillés furent enfin rentrés chez eux, Carla se mit au lit pour ne plus en bouger. Dans les mois qui suivirent, Théo, lui, vint rarement se coucher. Il restait éveillé, enfermé dans une colère têtue. À travers le brouillard des calmants, Carla l'entendait parfois faire les 100 pas dans son bureau, près du palier, ou descendre bruyamment les marches et traverser la cuisine pour sortir fumer dans le jardin avant de remonter. Elle l'entendait allumer puis éteindre la radio, zapper devant la télé, mettre un disque l'espace d'une demi-chanson avant d'envoyer le bras de la platine valser sur le vinyle. Parfois, il montait à l'étage et se tenait sur le seuil de leur chambre, mais il ne la regardait pas. Tourné vers la fenêtre d'en face, une main grattant son menton mal rasé, il lui arrivait de parler, des affirmations qui semblaient mener à des interrogations qui n'arrivaient jamais. Parfois, il mentionnait Angela ou l'enfant qu'elle avait été.
« Tu as toujours raconté qu'elle avait mauvais caractère quand elle était petite. »
Ou encore,
tu m'as déjà parlé de sa folle imagination. Sanguinaire, d'après toi. Tu disais qu'elle avait une imagination sanguinaire.
De temps en temps, il posait une vraie question.
Est-ce qu'elle était jalouse, tu crois ? Des capacités de Ben ?
Ils en avaient discuté auparavant, quand Ben était encore vivant. Angela devait forcément voir la différence entre son fils et le leur. Ben était précoce dans tous les domaines. Il était loquace, habile, plein d'empathie, et il savait compter avant son 3e anniversaire.
Tu verras qu'à 4 ans, il saura lire, aimait à répéter Théo, et Carla devait régulièrement lui demander d'arrêter ses vantardises.
Daniel était différent. Bébé, il pleurait beaucoup et dormait peu. Il avait mis une éternité pour réussir à marcher à 4 pattes et n'avait commencé à parler qu'à 2 ans et demi. C'était un petit garçon maladroit, irritable, et sujet à de grosses colères.
Tu penses que ça l'agaçait, de voir combien Ben était doué en tout ?
Insista Théo un jour.
Parce que Dan, c'est un gamin un peu bizarre, non ? Je sais que je ne suis pas objectif, personne n'est objectif quand il s'agit de ses enfants. Mais là, tout de même, je pense qu'on ne peut pas nier que Ben était un petit garçon absolument merveilleux.
Il était...
Qu'est-ce que tu veux dire ? Le coupa Carla d'une voix croissante. Qu'est-ce que tu sous-entends ?
Il se rapprocha du lit, les yeux exorbités, les joues empourprées.
Je te demande si, à ton avis, Angela aurait pu être jalouse, si, quelque part, elle...
Carla agrippa les draps et se força tant bien que mal à se redresser.
Tu me demandes si, à mon avis, ma sœur aurait volontairement laissé cette porte ouverte ? Parce qu'elle pensait que notre fils était plus réussi que le sien ? Tu me demandes si je pense qu'elle souhaitait la mort de Ben ? Non,
Non, bon Dieu, non, je ne dis pas qu'elle voulait qu'il meure. Je ne prétends pas qu'elle a agi volontairement. Je me demande juste si, peut-être mue par son inconscient, elle aurait pu...
Carla se laissa retomber sur le côté et tira la couette jusque par-dessus sa tête.
Laisse-moi tranquille, Théo. Je t'en prie. Va-t'en.
Il fallut un an à Carla pour retrouver l'habitude de se lever chaque matin, de se doucher et de s'habiller. Il lui fallut 18 mois pour revoir sa sœur, en secret. Un jour, elle annonça à Théo qu'elle s'était inscrite à un cours de yoga. Elle enfila un pantalon de jogging et un t-shirt sur son corps ramolli et affaibli et marcha jusque chez sa sœur, à Hayward's Place. Quand Angela lui ouvrit la porte, Carla eut un mouvement de recul. En 18 mois, sa sœur semblait avoir vieilli de plusieurs décennies. Elle était émaciée, la peau cireuse de son visage étirée sur son crâne, au point qu'elle paraissait desséchée, vidée de l'intérieur. Bien qu'encore jeune, les deux sœurs avaient déjà les cheveux gris. Et Angela raconta à Carla que les siens l'étaient devenus en une nuit. Oui, elle prétendait qu'elle était allée se coucher un mardi soir encore brune pour se réveiller le mercredi avec une crinière couleur cendre. Elle ne faisait pas de teinture et avait conservé ses longueurs.
« Je ressemble à une sorcière de conte de fées, non? Je terrorise les enfants au supermarché, » plaisanta Angela.
Carla ne trouva pas ça drôle. Elle non plus ne s'était pas teint les cheveux quand ils avaient commencé à perdre leur couleur, mais elle avait tout coupé.
« Tu as de la chance, » ajouta Angela, et Carla tressaillit. « Ta tête a une jolie forme. Moi, avec cette coupe, j'aurais l'air d'une extraterrestre. »
C'était un compliment, mais Carla en fut irritée. Elle n'aimait pas entendre le mot « chance » dans la bouche de sa sœur, encore moins s'il lui était associé.
« Les cheveux ne peuvent pas blanchir en une seule nuit, » dit-elle sèchement. « Je me suis renseignée, c'est une légende. »
C'était vrai, mais elle avait aussi lu l'histoire de jeunes femmes, bien plus jeunes que sa sœur et elle, des soviétiques qui avaient combattu au cours de la Seconde Guerre mondiale et avaient ressenti une terreur si abjecte que leurs cheveux étaient devenus gris en une nuit. Elle avait aussi lu l'histoire de Cambodgiennes qui avaient été témoins de telles atrocités qu'elles en avaient perdu la vue.
« Pourtant, c'est ce qui m'est arrivé, » insista Angela. « Tu ne peux pas me dire que je n'ai pas vécu ce que j'ai vécu. Tu n'en sais rien, de toute façon, tu n'étais pas là. »
Les cours de yoga se firent hebdomadaires, une mise à l'épreuve de la détermination de Carla. Celle-ci croyait au mérite du labeur. D'ailleurs, elle estimait que les choses qui en valaient la peine étaient souvent les plus ardues à réaliser. Elle avait la conviction que si on se donnait du mal, la plupart du temps, on pouvait atteindre son but. C'était peut-être sa version de la théorie des 10 000 heures. Si elle passait 10 000 heures à essayer de pardonner à sa sœur, y parviendrait-elle? Impossible de le prédire, mais cela lui semblait un plan d'action acceptable. Après tout, elle avait perdu ses parents, elle avait perdu son fils. Il ne lui restait plus grand-chose. Angela, le petit Daniel et, bien sûr, Théo. Même si elle savait au fond d'elle, dans le plus triste recoin de son cœur, que leur couple ne survivrait pas au drame qu'il avait traversé. Un jour, alors que Carla venait rendre visite à sa sœur, elle perçut des éclats de voix en provenance de la maison. Elle avait à peine fini de frapper que la porte s'ouvrit avec une telle violence qu'on aurait cru qu'Angela avait voulu l'arracher de ses gonds.
« Oh non !» s'exclama-t-elle en voyant sa sœur. « J'avais oublié qu'on était mercredi. Daniel n'a pas école. Il est... »
Elle s'interrompit, haussa les épaules.
« Bref, il n'a pas école. »
Elles s'assirent dans le salon, comme chaque fois, et au bout d'un moment, Daniel descendit pour dire bonjour. Si, au cours de ces 18 mois de séparation, Angela avait vieilli d'une décennie, Daniel n'avait pas changé du tout. À 9 ans, il était toujours petit pour son âge, toujours taciturne et hésitant. Il avait gardé cette habitude de se déplacer sans bruit, d'apparaître sans crier gare près des adultes en se tordant les mains devant le ventre. « Comme un petit animal », avait un jour commenté Carla avec un sourire.
« Comme un petit sauvage, oui »,
avait répliqué Angela. Ce mercredi-là, il surgit d'on ne sait où et se posta sur le seuil de la pièce.
« Bonjour, Tati Carla »,
dit-il avant de dévoiler un entrelacs de métal dans sa bouche.
« Bon sang, Daniel, arrête de faire cette tête !» cria Angela. C'est cette saloperie d'appareil dentaire, ajouta-t-elle à l'attention de sa sœur. Il est incapable de sourire normalement maintenant. La plupart des mômes qui ont des bagues, ils essaient de ne pas montrer leurs dents, mais pas lui. Au contraire, il passe son temps à faire cette tête affreuse.
Angela, siffla Carla tandis que Daniel s'éclipsait aussi discrètement qu'il était arrivé. Il t'entend.
Et son cœur, ou ce qu'il en restait, saigna pour l'enfant.
La fois suivante, elle apporta à son neveu une grande boîte de crayons de couleur qu'elle lui offrit dans sa chambre, à l'étage. Quand il vit son cadeau, ses yeux se mirent à briller.
« Oh !» s'exclama-t-il, au comble du ravissement. « Tati Carla !»
Il lui adressa son épouvantable sourire et enroula ses bras maigres autour de sa taille. Carla se figea. Elle ne s'était pas préparée à ce choc, à la sensation du corps d'un enfant pressé contre elle pour la première fois depuis si longtemps. Osant à peine respirer, elle parvint avec difficulté à regarder la petite tête, les beaux cheveux châtains, la nuque sur laquelle elle remarqua deux bleus de la taille d'un pouce et d'un index. Comme si on l'avait attrapée par la peau du cou et qu'on l'avait pincée fort. Quand Carla releva la tête, elle vit que sa sœur les observait.
« Il passe son temps à se battre à l'école », dit Angela avant de se détourner.
Carla l'entendit s'éloigner et descendre les marches d'un pas étonnamment lourd pour une femme si menue. Elle laissa l'enfant la serrer contre lui encore un instant, puis détacha gentiment ses bras pour s'accroupir devant lui et le regarder en face.
« C'est vrai ça, Daniel? Tu te bagarres souvent ?»
D'abord, il refusa de croiser son regard. Quand il l'affronta enfin, il arborait un air grave.
« Parfois, » dit-il à voix basse, « parfois les gens ne... ils ne... »
Puis il gonfla les joues et poussa un gros soupir.
« Mais bon, on s'en fiche. »
« On ne s'en fiche pas, Dan. Moi, je ne m'en fiche pas. »
« Si, on s'en fiche. Parce que je vais partir. Je vais changer d'école. Et je ne vivrai plus ici. Je vivrai là-bas. »
Sur ce, il lui refit un câlin, les bras autour de son cou cette fois. Il respirait dans son oreille, un souffle léger et rapide, le souffle d'une proie acculée. Angela le lui confirma. Daniel partait à l'internat. C'est son père qui paie. Il a choisi l'école qu'il a lui-même fréquentée, quelque part dans l'Oxfordshire. C'est un établissement très réputé.
Quelque part dans l'Oxfordshire?
Angie, tu es sûre que c'est une bonne idée?
Tu ne te rends pas compte?
Elle baissa la voix avant de préciser, plus dure. Vivre avec Daniel est un calvaire.
Arrête, ne me regarde pas comme ça. Tu ne peux pas comprendre, Tu viens ici une fois par semaine, tu ne vois pas comment il se comporte quand il n'y a plus que lui et moi,
Il a été gravement traumatisé par ce qui lui est arrivé. Carla commença à secouer la tête, mais Angela poursuivit. « Je sais que tu n'as pas envie d'entendre ça, mais c'est vrai. » Elle attrapa son paquet de cigarettes et en sortit une d'un geste maladroit. Angela avait sans cesse les mains qui tremblaient à présent. Avant, cela lui arrivait parfois au lendemain d'une soirée difficile, mais désormais c'était en permanence. Alors elle les occupait constamment, en attrapant un verre, un livre, un briquet. Évidemment qu'il a été traumatisé. Répondit Carla, tandis qu'Angela allumait sa cigarette et tirait une première bouffée. La psychologue a dit que maintenant, il raconte qu'il a vu... Enfin, tu sais, qu'il l'a vu tomber. Ben. Il raconte qu'il ne l'a pas simplement retrouvé, mais qu'il a vu la chute.
Elle ferma les yeux.
Il raconte qu'il a crié et crié, mais que personne n'est venu. Il raconte...
Carla leva une main.
Angela avait raison, elle n'avait aucune envie d'entendre ça.
« Je t'en prie, » souffla-t-elle.
Elle attendit un moment que sa respiration se calme avant de reprendre.
« Tout de même, comment peut-on... Tu ne peux pas croire que la solution à ce traumatisme, c'est de le séparer de sa mère.
Sauf que c'est justement sa mère, le problème, » répliqua Angela en écrasant sa cigarette à peine entamée dans le cendrier. « Il me tient pour responsable de ce qui s'est passé, Carla. »
Elle leva la tête vers sa sœur, essuya ses larmes d'un revers de main.
Il a dit à sa psychologue que ce qui s'est passé était ma faute.
Et pour cause, songea Carla, c'est bien ta faute.